Bonjour Tiffany et très bon après-midi à vous.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, c'est mercredi, nous continuons de parler de Charles Dickens dans la compagnie des auteurs, une émission qui vous est proposée par Laurence Genepin, Laurence Millet, Chloé Casmarek, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost et Clément Daté. Quand Dickens meurt à l'âge de 58 ans, le 9 juin 1870, il est épuisé par son activité frénétique, par les lectures qu'il donne gratuitement de ses textes et qui durent des heures entières, par les travaux qu'il a promis ici et là. Il est aussi un homme angoissé, révolté par les conditions de vie des plus pauvres, ce qui constitue pour lui un fardeau moral. Ce jour-là, il nous laisse plus de 2000 personnages en héritage, 16 romans et des nouvelles, au cours d'une vie que nous a raconté lundi Jean-Pierre Hall, son biographe, dans la collection Folio. Hier, avec l'universitaire Nathalie Vanfasse, nous sommes revenus sur la question de la norme et de la déviance chez Dickens, lui dont plusieurs de ses romans mettent en scène des criminels et des prostituées dans la société victorienne. Enfin, demain, pour parler de David Copperfield et de Un conte des deux villes, je serai d'abord en compagnie de Laurent Bury, puis en seconde partie de Dominique Barberis qui nous parlera des contes de Noël de Dickens. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler des fantômes chez l'auteur d'Esprit frappeur, de Confessions trouvées et d'Alire au crépuscule, je reçois Isabelle Gadouin, professeure à l'université de Poitiers, où elle enseigne la littérature et les arts visuels. Elle a préfacé en 2016 l'édition Folio Gallimard des histoires de fantômes de Charles Dickens. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Je crois que il faudrait d'abord indiquer que tout cela se passe sur un fond de brouillard et de mystère. Alain a beaucoup insisté là-dessus et il a raison. À l'arrière-plan d'un roman de Dickens, il y a toujours la Tamise, les brumes qui s'élèvent du fleuve, les brouillards de Londres, et puis une vieille maison où tout craque. Ce sont les éléments faits pour enfanter un monstre. Dans le brouillard, les formes les plus simples deviennent monstrueuses. Et si les Anglais croient aux fantômes plus que les Français, je crois que c'est en partie à cause de cela. Et je crois que l'aptitude à créer des monstres est souvent le signe du grand romancier.
Bonjour Isabelle Gadouin.
Bonjour à vous.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée d'André Mauroy qu'on entendait à l'instant, pour qui finalement on reconnaît les grands romanciers à leur aptitude à créer de grands monstres?
Oui, absolument, oui, oui. Cette allusion aux brumes et aux brouillards, je me disais, c'est peut-être l'une des raisons pour la capacité qu'ont les Britanniques à inventer des fantômes. L'aspect climatique de la chose, si je puis dire. Il y a de grands moments de bravoure chez Dickens qui sont absolument extraordinaires. Je pense à l'Innkeeper de Bleak House, par exemple, qu'on a traduit comme la maison d'Apprevant. À Bleak, c'est la maison sinistre, en fait. Et cet aspect sinistre commence dès l'Innkeeper, qui est en fait un paysage de brume et de brouillard. Fog. Fog everywhere.
Oui, mais on sait bien qu'à Londres, c'est pas le temps qui pose problème, c'était la pollution à l'époque.
Alors, la pollution, mais en fait, le brouillard dans Bleak House remplit toutes sortes de fonctions, il crée cette atmosphère extraordinaire dès les premières pages, et il est porté aussi par le rythme de Dickens. Dickens a une capacité à quasiment envoûter, on va en parler à nouveau hein, avec les spectres, mais il a une capacité à quasiment créer une sorte d'envoûtement rythmique par sa phrase qui se déploie comme ça en labyrinthe, qui vous porte. Hein. Et donc, ce brouillard, en fait, il est évidemment climatique, bien sûr, mais il est également, dans Bleak House, absolument métaphorique. Mm-hmm. Il est métaphorique. Bleak House est un des romans où il s'en prend en particulier au système de la justice anglaise, hein. avec laquelle on sait que sa famille a eu maille à partir, puisque son père a été lui-même, enfin la famille entière, hein, a été jeté en prison pour dette, et c'est le traumatisme central de son enfance. Et donc le brouillard, en fait, ce sont aussi voilà, tous les brouillards, comment dire, artificiellement créés par ces arcanes d'une justice que personne ne comprend, et ce procès qui a duré des années et des années, dans lesquelles un certain nombre des personnages très nombreux de Bleak House sont partie prenante, qui s'appelle John Dice and John Dice. C'est le cas John Dice and John Dice, qui sonne comme la jaunisse et la jaunisse, et dont personne ne sort jamais.
Donc ce sont des brouillards kafkaïens.
Et ces brouillards sont récurrents dans l'œuvre de Dickens. Je vous parle de Bleak House, mais évidemment, il y a ce grand moment aussi. Dickens est aussi un génie de l'inkipit, si je puis dire. Il y a ce grand moment au début de Great Expectations, où le petit Pip est perdu dans les marais et rend visite, enfin se rend sur la tombe de ses parents au cimetière, et c'est le moment où il va croiser cette figure fantomatique, spectrale, dont il ne sait rien dans un premier temps, hein, qui est cet individu qui surgit des marais, dont on a une description très, très schématique dans un premier temps. On sait juste qu'il transporte cette chaîne, et donc le jeune Pip, en fait, va l'aider à se dégager de sa chaîne. Et c'est bien plus tard, en fait, dans le roman, qu'on saura que c'est un prisonnier évadé qui manifestera sa reconnaissance envers Pip en lui laissant toute sa fortune. Mais ce qui importe, hein, c'est cette atmosphère des marais, de la tombe, de la rencontre sur la tombe.
Enfin. Alors, mais ça, c'est un topos un petit peu du récit de fantôme. Ça existait avant lui. Il amplifie ce phénomène-là. Comment ça se passe?
Alors, oh, c'est une vaste histoire. Oui. Bon, Dickens travaille beaucoup à partir du roman gothique. Le roman gothique lui-même apparaît à la toute fin du XVIIIe siècle. On date le premier roman gothique de 1764, si je ne me trompe, c'est Horace Walpole avec le Château d'Otrante. Dans le Château d'Otrante, on voit déjà se mettre en place un certain nombre des invariants de ce qui deviendra le roman gothique, en particulier le lieu. Vous parliez du lieu, de ces vieilles maisons qui nécessairement craquent, où l'on voit passer des rats, des souris, tout ce qu'on veut. Donc le lieu se met en place, le lieu c'est la demeure gothique par définition. Les trappes, les donjons, les passages secrets.
Donc il récupère tout ça.
Et donc il récupère en partie cette longue tradition gothique qui est à nouveau travaillée par les romantiques, les post-romantiques. Il y a quelque chose de la maison gothique aussi dans les romans des sœurs Brontës, par exemple, hein, Emily et Charlotte. Mais alors ce que fait Dickens, c'est en fait d'apporter Dickens, en fait. C'est que son imagination est tellement proliférante qu'il a une capacité à synthétiser une série de choses extraordinaires.
Alors, il apporte un certain nombre de fantômes.
Oui.
Ils sont pas tous pareils, d'ailleurs, les fantômes chez Dickens.
Ils sont très divers. Ils sont très différents.
Plusieurs types. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de fantômes?
Alors, les types de fantômes, laissez-moi me souvenir. Il y a, je crois que justement, j'ai tenté dans ma préface une petite typologie des différents fantômes.
Moi, je peux vous aider si vous voulez. Il y en a 5 ou 6. Il y a d'abord le traditionnel, c'est le revenant.
Voilà, c'est ça. Le revenant, c'est peut-être celui qui a le plus d'impact, dirais-je. C'est le mort, c'est le disparu, regretté, avec lequel on est confronté.
C'est le petit orphelin.
C'est le petit orphelin.
Qui a été battu, qui est mort à cause de ses sévices, et puis qui revient chercher un petit
peu
d'affection.
Et qui se manifeste
dans le fantôme de Noël.
Voilà, qui se manifeste au visiteur, lui-même perdu dans cette vaste demeure qui lui fait en partie, qui le jette dans des abîmes de perplexité. Le petit orphelin passe la porte une nuit et en fait, il se rend compte, le visiteur se rend compte au lendemain qu'il s'agissait d'un placard qui était muré depuis des années et qu'en aucun cas cette porte ne pouvait s'ouvrir.
Ça peut être le pendu aussi.
C'est un petit peu ce que j'ai appelé le fantôme passe-muraille. Le pendu, qui fait partie des histoires que je préfère quasiment, hein, c'est le pendu de la chambre de la mariée. Ah, alors ce pendu a une longue histoire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Dickens a une capacité à jouer sur les structures de la narration. La chambre de la mariée commence, si je me souviens bien, avec des voyageurs. Qui sont en partie perdus, qui entrent dans cette maison et ils vont se retrouver confrontés à ces vieillards impalpables qui errent sous forme quasiment aérienne dans cette maison. Et l'un d'eux va leur raconter son histoire. Et cette histoire, c'est une histoire de persécution. Il voulait Alors, il y a beaucoup d'actions hein, dans toutes ces histoires. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de rebondissements. J'essaye de me souvenir de tous les détails.
Mais non, mais c'est pas grave parce qu'on ne va pas forcément résumer.
Il voulait s'emparer d'une fortune en épousant une jeune fille. Il lui fait rédiger son testament. Et une fois que le testament est rédigé, il n'a plus qu'une seule obsession, c'est de la mettre à mort. Et cela, par la seule force de sa capacité de suggestion. Il lui dit « meurs ».
Voilà.
Meurs.
On reviendra aussi sur
die.
Cette capacité
anglais, très fort.
De suggestion, Isabelle Gadouin.
Vous pouvez disposer. Nous n'avons plus besoin de vos services. Oh. Alors allez-vous-en. À demain.
Vous avez entendu? Nous n'avons plus besoin de vous. Voyez mon ami, Monsieur Idle, il dort déjà. Je veux en faire autant. Allez-vous reposer, vous aussi? Eh bien, vous n'avez pas entendu? Laissez-nous.
Il faut que je vous le dise. Il faut que je vous le dise.
Quoi donc?
Savez-vous où cela s'est passé?
Mais de quoi voulez-vous parler?
Cela s'est passé ici, dans cette chambre. C'est la chambre de la mariée. C'était une jeune épousée, elle n'avait que 18 ans. C'était une fille aux cheveux couleur de lin et aux grands yeux bleus.
Comme l'air de cette chambre est oppressif, la fenêtre est pourtant ouverte. Voyons, laissez-nous, je vous en prie.
Non. Il faut que je vous le dise. Jadis, il y avait à Lancaster un jeune homme qui aimait une jeune fille belle et intelligente, mais ambitieuse. Comme le jeune homme était pauvre, elle lui préféra un homme sans esprit, sans volonté, mais très riche.
Jamais, Edith, je ne te pardonnerai cette trahison. Je suis vaincu par l'argent. Un jour, je vaincrai pour de l'argent.
10 ans plus tard, Edith devint veuve. Son mari lui laissait une immense fortune et une petite fille aux grands yeux bleus, aux cheveux couleur de lin. La jeune veuve retrouva sur son chemin celui qu'elle avait dédaigné autrefois. Elle ne se douta pas qu'il avait préparé soigneusement cette rencontre. Elle devint sa maîtresse, et une maîtresse ardente et passionnée. Elle lui jura qu'elle avait fait un testament en sa faveur. Brutalement, alors qu'elle paraissait en pleine santé, elle mourut. Mais il n'y avait pas de testament. L'immense fortune revenait à la petite fille aux cheveux de lin. Il la contempla longuement sur son lit mortuaire.
Pour la deuxième fois, Edith, tu t'es joué de moi. Crois-tu que je sois homme à renoncer à ma décision? Crois-tu que je ne sois pas capable d'imiter ton écriture et de faire croire au notaire que tu m'as désigné comme tuteur d'Hélène, ta fille? Là se trouve ma vengeance.
Leaves crumble like cubes of sugar. Leaves crumble like cubes of sugar.
La compagnie des auteurs sur France Culture et cet extrait d'une adaptation de La Chambre de la mariée dont vous parliez à l'instant, Isabelle Gadouin, interprétée notamment par Jean Topard dans une émission qui s'appelait Émission Flânerie dans ma bibliothèque. Ça date de 1969, ça aussi ça nous emmène loin dans le passé, Isabelle Gadouin. À quoi vous fait penser cet extrait de La Chambre de la mariée?
Alors, en fait, ça me fait penser à toute la force de ces manipulation véritablement, parce qu'il s'agit de manipulation narrative également. Ce qui se passe, c'est que le récit que ce vieillard inflige aux visiteurs de la maison, c'est une forme de prise de possession, de la même manière que le criminel lui-même a pris possession de la jeune fille pour la tuer et s'emparer de sa fortune. On va réaliser, en fin de compte, que le vieillard qui raconte cette histoire est en fait le meurtrier. Et donc il y a une sorte de superposition des voix que l'on ne soupçonne évidemment pas au moment où on commence à lire l'histoire. Hein. On a l'impression de séries d'histoires qui sont emboîtées les unes dans les autres. Mais en réalité, c'est juste le dépli d'un seul et même fil qui fait que c'est le meurtrier qui revient, non pas se confier, mais raconter son histoire. Et il est victime d'une sorte de malédiction qui me rappelle beaucoup la malédiction du vieux marin dans le dit du vieux marin de Coleridge. C'est-à-dire qu'il est condamné à répéter sans fin son histoire parce qu'il n'arrive jamais, jamais à s'en libérer. Tout simplement parce que ses auditeurs... Alors ça, c'est très, très typique de Dickens. C'est l'élément comique à l'intérieur de ces histoires-là. Il n'arrive pas à raconter ses histoires tout simplement parce que ses auditeurs s'endorment toujours au milieu de la narration. Et donc, jamais il n'arrivera à la fin de son histoire et au moment où il pourra se soulager définitivement de cette malédiction.
Et c'est en cela que les récits de fantômes de Dickens sont des récits hybrides qui mêlent plusieurs genres, à la fois l'humour, le fantastique, le policier. On va y revenir au fur et à mesure de cette émission. Mais d'abord, j'aimerais qu'on essaie de voir un petit peu d'où ça vient, ces fantômes, quel est un peu leur généalogie. Pour Dickens lui-même, tout le monde n'écrit pas, même si c'est une mode du 19e siècle sur les fantômes, au point où il l'a fait lui.
Alors, chez Dickens lui-même, il y a un certain nombre de composants qui sont strictement biographiques. On sait que c'était un garçon très précoce, très doué, très intelligent, très sensible également, qui a donc traversé ce traumatisme de l'emprisonnement de ses parents, qui n'a pas réussi à obtenir l'éducation dont il était qu'il aurait pu recevoir, qui s'est quasiment formé lui-même, mais on sait qu'il était donc probablement très réceptif à toutes sortes d'histoires, mais en particulier à celles que lui racontait sa nourrice. J'oublie le nom de la nourrice, mais il la donne dans les Mary Weller. Mary Weller, c'est cela. Et donc, il y a, ce qui est incroyable chez Dickens, c'est que dans toute sa maturité, hein, alors qu'il a 40, 50 ans, on le voit encore finalement revenir à ces éléments de sa jeunesse, souffrir avec les enfants, défendre la cause des enfants et se souvenir tout simplement des contes que lui racontait sa nourrice.
Donc des contes qui sont du coup des récits qui renvoient à l'oralité.
Oui.
Et là, en effet, sa nourrice lui racontait ces histoires-là, donc il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'histoire à la veillée,
oui,
dans la manière dont ces histoires de fantômes sont écrites.
Oui, tout à fait. Oui. Alors, ce qui se passe au 19e siècle, ça c'est un sujet très très intéressant. Ce qui se passe au 19e siècle, c'est que toute cette tradition orale, en fait, qui perdure, qui est transmise évidemment chez les enfants essentiellement de la bourgeoisie, par les conteuses, les nourrices, etc., trouve un nouveau développement au 19e siècle dans les développements du marché de l'édition et de l'imprimerie. En fait, c'est le grand développement de la presse. C'est un moment d'explosion extraordinaire de la presse, notamment des magazines. Et Dickens lui-même va lancer un premier magazine qui ne survit pas très très longtemps, mais surtout deux magazines essentiels qui sont Les Mots du Foyer, Household Words, et ensuite, tout au long de l'année, All the Year Round. Donc le premier a déjà une bonne durée de vie, hein. Il le crée en 1850 et je crois que le magazine perdure jusqu'en 1859. Le deuxième l'accompagnera jusqu'à la fin de son existence. Et donc ce qu'il faut voir, c'est que...
Et sera repris par son fils.
Ce qu'il faut voir, c'est que ces magazines, puisque vous allez parler de magazines, sont des magazines qui sont extraordinairement populaires. Ils sont lus par une large frange de la population. Alors, évidemment, pas du tout la frange ouvrière, hein, qui n'a pas du tout accès encore à l'éducation, mais en tout cas, toute la partie, disons, des classes moyennes qui savent lire, écrire, se divertissent en lisant ces magazines où l'on trouve absolument de tout. C'est-à-dire des extraits de romans sous forme de feuilletons, des poèmes, des pièces de circonstances, des prises de parti politiques, économiques. Dickens milite sur tous les fronts, sur à peu près tout, la qualité de la nourriture dans les gares. Enfin, il est vraiment, ses prises de parti sont...
On verra qu'il prenait beaucoup le train.
Il prenait beaucoup le train, ses prises de parti sont multiples et il est extraordinairement prolixe. Et donc, ce qui se passe avec ces magazines, en fait, c'est que il faut produire, hein, il faut bien dire aussi que dans ses écrits, on voit quand même aussi le moment où Dickens s'efforce d'écrire quelque chose parce qu'il faut boucler le magazine et qu'il a besoin de 30 pages, hein, faut bien le dire aussi, ça, on le perçoit parfois. Mais ça signifie qu'il faut aussi des pièces qui sont courtes, denses, qui vont accrocher le public, qui ont aussi trait à une certaine forme d'oralité, puisqu'on lit ces histoires en général entre amis, en famille, particulièrement à la veillée, hein, il n'y a pas de télévision, donc il faut s'occuper. Et donc on lit beaucoup ça, on estime que les magazines passent de main en main, hein, ce sont des lectures qui sont très très populaires. Et donc la forme en fait de l'histoire de fantôme, hein, cette forme orale qu'on connaît bien, elle est particulièrement appropriée à ce développement extraordinaire de la presse à cette période-là. Et donc, il y a une sorte de conjonction, si vous voulez, entre cette nouvelle, ce développement technologique inattendu, et puis des éléments qui étaient là, en particulier depuis le roman gothique.
Alors, pour continuer dans ses racines, finalement, de la volonté de Dickens d'écrire sur les fantômes, il faut aussi parler de la jeune Mary Hogarth, qui est donc sa belle-sœur, qui a sûrement été en réalité son grand amour, beaucoup plus que sa femme, finalement, la sœur de Mary Hogarth. Et cette jeune fille, qui est morte très jeune, qui est d'ailleurs morte dans ses bras, Isabelle Gadouin, elle revient comme un spectre dans un certain nombre de récits de Dickens. C'est ça le fantôme originel de Dickens?
Oui, je crois que c'est le fantôme sentimental de Dickens. On a beaucoup dit qu'effectivement, les figures féminines chez Dickens se partagent en deux catégories, qui sont la jeune fille frêle d'un côté et puis des figures beaucoup plus impressionnantes de l'autre. Je crois que ce traumatisme de la jeunesse, effectivement, court à travers son œuvre. Mais là aussi, je pense, vous me parlez des spectres féminins. Hein. Il faut parler d'un autre spectre féminin qui est extraordinaire chez Dickens, c'est Miss Havisham. Mm-hmm. Miss Havisham, dans Great Expectations, à nouveau, qui est cette femme qui a voulu épouser quelqu'un qui l'a laissé le jour de ses noces. Elle l'a désespérément attendu le jour même du mariage, et elle va passer le reste de son existence dans sa robe de mariée, avec enfermé dans une chambre où personne n'a le droit d'entrer, évidemment, le gâteau de mariage qui pourrit lentement sous les toiles d'araignée et au milieu des passages des rats. Et donc là, on a une sorte de collusion, si vous voulez, entre la jeune fille manipulée, malgré elle, la jeune innocente, etc. Et puis, cette figure absolument spectrale, très impressionnante.
Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons des fantômes de Dickens avec vous, Isabelle Gadouin. Vous avez rédigé la préface de ce joli volume chez Folio Classique qui regroupe donc les histoires de fantômes de Dickens. Alors c'est vrai qu'on a commencé à le dire avec ces histoires fantomatiques. On est sur plusieurs genres en même temps. On est d'abord sur un genre qui est évidemment le genre fantastique.
Absolument. Oui, oui. Alors, le fantastique va se développer plus tard, en fait, dans le siècle. C'est vraiment un genre qui va prendre tout son envol à la fin du 19e siècle, hein, avec des gens comme le Fanu, etc. Mais on voit déjà paraître quelques prémices chez Dickens. Et il me semble qu'on voit ces prémices dans toutes ces nouvelles où, en fait, il n'y a pas véritablement de possibilité de retour à un réel bien ferme, si je puis dire. C'est-à-dire que la fin de l'histoire vous abandonne dans un état d'incertitude absolue où la chose est peut-être arrivée, mais n'est peut-être pas arrivée. Mmh. Et un des grands exemples que l'on donne du fantastique, évidemment, c'est Le Signaleur, qui est une nouvelle très connue de Dickens, hein, probablement l'une de ses plus connues.
On en entendra tout à l'heure un extrait.
Un homme qui me semble, le narrateur donc, qui me semble représenter les forces traditionnelles de la rationalité, ne doutant pas un instant que certaines choses sont possibles et d'autres non, rencontre ce signaleur dans un... Alors l'atmosphère ici aussi est importante, hein, dans une sorte de goulot d'étranglement qui est ce tunnel dans lequel il est censé réguler la
circulation. Mais encore une fois, je pense qu'on entendra tout à l'heure un extrait. Je vous laisse garder votre idée pour tout à l'heure. D'accord. Et vous pourrez à ce moment-là nous reparler du fantastique. Le policier, c'est également l'un des genres auquel Dickens fait appel. On pourrait même parler du roman noir. Est-ce qu'il y a là une vraie reprise finalement des codes du roman policier, du roman noir, par Dickens, pour ses histoires de fantômes.
En tout cas, un jeu, c'est évident. Dickens est très ami avec Wilkie Collins, et Wilkie Collins est l'un des grands représentants de ce qu'on appelle sensation novels au 19e siècle. Là encore, un genre extraordinairement populaire. Le roman à sensation, par définition, de Wilkie Collins, enfin, les deux grands romans à sensation de Wilkie Collins, c'est La Pierre de Lune, qu'on conseille à tout le monde, évidemment, c'est extraordinaire, ça fonctionne, j'allais dire du feu de Dieu, mais non, peut-être du diable, peut-être du diable. Et là, la femme en blanc, et donc Wilkie Collins raffine évidemment cette idée du roman policier. Ce qu'on a dans La Pierre de Lune, c'est le rapt d'un énorme diamant venu d'Inde, évidemment, et ensuite les dépositions successives de tous les gens qui ont pu, d'une manière ou d'une autre, être témoins dans cette maison, à nouveau, puisque la maison a un rôle absolument cardinal. Et donc, il joue sur ces narrations successives. Et on voit que Dickens sait très bien que, voilà, on peut là aussi jouer sur les angles différents pour rentrer dans une histoire selon des perspectives biaisées ou des gens qui racontent sans raconter, etc. Donc, il sait très, très bien faire ça, oui.
Alors, vous évoquez la maison. Il y a une nouvelle où la maison est le lieu d'un espèce de cluedo.
Oui.
Et là, on rejoint à la fois le roman policier et puis le roman d'horreur, je sais pas, en tous les cas d'un suspense un peu macabre. C'est La Maison Hantée. Je vous propose d'en écouter tout de suite un extrait interprété par Philippe Moreau et Antoine Mauzin.
Pardon, monsieur.
Oui.
N'est-ce pas vous qui venez pour louer La Maison Hantée?
Comment une maison hantée?
Oh, non, enfin, je n'en suis pas certain, mais c'est une vieille maison inhabitée depuis longtemps.
Et est-elle loin d'ici?
Non, monsieur, c'est celle que vous apercevez, là.
Ah, mais dites-moi, elle a l'air plutôt abandonnée.
La maison est très grande et le jardin aussi.
Eh bien, allons-y. Je vais laisser mes bagages à la consigne au cas où je trouverai que cette maison n'est pas habitable telle qu'elle est. J'irai alors à l'hôtel pendant quelques temps.
Oui, monsieur.
Comment vous appelez-vous?
Iskay, monsieur.
Eh bien, Iskay, qu'est-ce qui vous fait dire que cette maison est hantée?
Je n'ai pas dit qu'elle était hantée, monsieur.
Ah, vous l'avez dit. Je l'ai bien entendu.
Non, j'ai dit que on le disait dans le village.
Iskay, parlez-moi franchement. J'ai déjà par deux fois habité dans des maisons hantées. Une troisième ne me fera pas peur. Je me rappelle, une fois, c'était en Italie, dans un vieux palais. Et selon vous, quel est le fantôme qui habite cette maison?
Il y aurait, d'après ce que l'on dit, monsieur, plusieurs fantômes.
Plusieurs fantômes, par exemple? Et quel genre de fantôme?
Une vieille femme avec un hibou.
Une vieille femme avec un hibou? Et l'avez-vous vu, cette vieille femme et son hibou?
J'ai vu le hibou, monsieur.
Et jamais la femme?
Pas aussi distinctement que le hibou, mais ils sont toujours ensemble.
Et connaissez-vous des gens qui ont vu la femme aussi distinctement que l'oiseau?
Oh, Dieu me garde, monsieur, il y en a des quantités.
Qui est... Enfin, plus exactement, qui était cette femme?
On dit... Ce n'est pas moi qui le dis. Qu'elle a été assassinée.
Ah.
Oui, et que le hibou ululait pendant qu'on la tuait.
Alors on ne sait pas, Isabelle Gadouin, s'il faut rire ou s'il faut avoir peur. Là encore, tous les genres se mêlent, y compris le genre un peu parodique dans cette nouvelle La Maison Hantée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement?
En fait, ce qui me frappe en écoutant l'extrait que vous venez de passer, c'est que je crois que Dickens lui-même est très partagé face à ces phénomènes.
Mmh.
Il est à la fois fasciné et très sceptique. Mais c'est un tel terreau pour un écrivain, évidemment, qui ne peut pas ignorer ça. Et ce qui est frappant dans l'extrait que vous avez montré, c'est qu'il met en scène systématiquement ce personnage qui, lui, est très rationnel. Il dit non, mais ça, c'est pas possible du tout, je vais vous montrer que. Et puis, effectivement, ceux qui y croient, qui sont la croyance populaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Dickens, d'une certaine manière, fait tourner les choses de telle façon que le représentant de la bonne et fière rationalité initiale se retrouve pris au jeu et est finalement convaincu que les fantômes existent. Alors, il ne le fait pas toujours de façon aussi claire que ça, parce qu'il y a aussi, à l'inverse, les histoires qui se finissent sur une fin qui est une sorte de pirouette désinvolte, démontrant que, évidemment, tout ça n'était que des croyances et que des jeux, et que lui-même en a profité pour se jouer de son lecteur, bien sûr. C'est aussi une manière de jouer pour lui avec, je vous le disais, les structures de la narration et ce qu'il est possible de faire croire et ce qu'il est possible d'écrire, bien sûr, en ignorant totalement la réalité. Et je crois que la pirouette finale, c'est aussi là qu'on voit le... Moi, j'ai beaucoup aimé traduire ces nouvelles parce que on voit le plaisir que pouvait prendre Dickens à l'écriture. On voit le côté ludique, presque gourmand, je dirais, que
Dickens. En particulier dans les histoires de fantômes, plus qu'ailleurs.
En particulier dans ces histoires-là, oui, parce que précisément, il ne les prend pas au sérieux. Il ne les prend pas au sérieux. Et donc, soit il part de quelque chose qui paraît effectivement ridicule et il en fait quelque chose qui va être tout à fait macabre, sinistre, sordide et qui vous fait presque peur. Soit à l'inverse, il part d'un scénario qu'on reconnaît parfaitement comme le scénario macabre et il le transforme en scénario de comédie. Et donc, je crois que ce jeu, et ça c'est aussi très très dickensien, le fait d'introduire de la comédie au milieu du macabre et vice-versa, ce jeu sur les registres, ce jeu sur les disjonctions, sur les déraillements, si je puis dire, de la narration. Ça, je crois que c'est très, très dickensien aussi.
Alors, Isabelle Godin, ne disparaissez pas encore. On va continuer de chasser les fantômes chez Dickens avec vous en seconde partie de cette émission. Mais tout de suite, c'est le moment d'En compagnie des revues.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
En compagnie des revues avec en chair et en os, pourrait-on dire, et non pas son spectre, Alexis Broca du magazine littéraire, ou plutôt du nouveau magazine littéraire. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Isabelle. En effet, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du magazine littéraire, ça va changer un petit peu. Je vais vous parler du nouveau magazine littéraire.
Ah, le numéro 1.
Numéro 1,
en très gros sur la couverture.
Écrit en très gros sur la couverture. En effet, notre vénérable journal, qui a plus de 50 ans tout de même, décide de changer de visage en s'ouvrant aux idées, aux débats de société, à la politique. Et le tout sur un ton résolument optimiste, à rebours du déclinisme et de la morosité grisâtre qui serait l'esprit de notre époque. Et de là notre dossier central consacré aux utopies et à tous ceux qui rêvent de réinventer notre monde. Et pour mener cette barque, l'essayiste optimiste Raphaël Glucksmann.
Mais alors rassurez-moi, on retrouvera toujours le dossier qu'on aime tant nous à la compagnie des auteurs
bien
sur
entendu,
un écrivain patrimonial.
Voilà, bien entendu, les fondamentaux du magazine littéraire demeurent. Il y a donc toujours un dossier consacré à la littérature. Ce mois-ci, nous parlons d'Étienne de la Boétie qui a pensé au XVIe siècle la servitude et les moyens de s'en sortir. Avec des articles de Michel Onfray, de Frédéric Gros, de Jean-Michel de la Comté, de la romancière tunisienne Adza Filali. Il y a aussi toujours une assez vaste rubrique critique de la fiction, de la non-fiction. Bref, le magazine littéraire garde ce qui a fait sa force pendant 50 ans. Voilà.
Autre nouveauté, le face-à-face.
Oui, alors il y a pas mal de nouveautés. En effet, il va y avoir un face-à-face tous les mois entre... ça remplace notre grand entretien, en fait. Un face-à-face tous les mois entre Raphaël Glucksmann et une figure intellectuelle à laquelle il se confrontera. Mm-hmm. Il s'agit là aussi, dans la confrontation, de faire jaillir des étincelles d'idées. Voilà. Plus largement, on s'ouvre vraiment à l'actualité. Il y a un grand papier de Marc Weisman sur la famille Mera, dont le récent procès d'Abdelkader Mera nous a révélé les dysfonctions. On a un article de Najat Vallaud-Belkacem qui fait l'éloge de l'imperfection en politique. C'est rare de faire l'éloge de l'imperfection en politique.
Surtout quand on est soi-même femme politique.
Voilà, et parfait. Et puis bien sûr, on a ce dossier sur l'utopie qui constitue vraiment le gros morceau du magazine.
Voilà, donc le dossier, que va-t-on trouver à l'intérieur? On a dit qu'il y avait le dossier La Boétie, puis il y aura toujours un dossier idée.
Il y aura toujours un dossier idée, en effet. Ça nous paraît important simplement parce que dans notre ambition de revenir dans le jeu intellectuel et dans le bain de réflexion sur l'actualité, sur le quotidien, il importe qu'on donne un gros morceau d'écriture. Après, ça passera toujours par la littérature. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des écrivains qui nous livreront des textes littéraires sur le sujet. Là, c'est sur l'utopie, simplement parce que nous sommes dans un monde dont les indicateurs craquent de partout, semble-t-il, économique, écologique et démographique. Et nous, on ne veut pas se résigner. Voilà. On pense qu'il importe d'inventer de nouveaux modèles, de nouvelles idées, de nouveaux mondes, et on pense qu'il est important de le faire maintenant pour que ça advienne éventuellement plus tard.
D'autres signatures d'écrivains, Pierre Ducrozet, Frédéric Becbédé, Vincent Message.
Vous avez aussi des textes de Corinne Pelluchon qui envisage une révolution antispéciste, Michael Fossel qui nous explique en quoi la nuit est un ailleurs où l'on peut réinventer le monde. Bref, avec ce dossier, on veut vraiment vous donner envie de lire, de rêver et d'espérer et vous rappeler encore une fois que l'avenir s'invente dans les livres et dans les idées et dans les livres et les idées d'aujourd'hui.
Alors merci beaucoup Alexis Broca, et donc je ne saurais que conseiller à nos éditeurs d'aller découvrir ce nouveau magazine littéraire. Oui, oui. Il est déjà en kiosque.
Merci beaucoup.
Merci Alexis. La compagnie des auteurs reprend son chemin à la poursuite de fantômes dont certains surgissent avant les accidents de train chez Dickens. Aux yeux du signaleur de la voie ferrée, un extrait, je vous l'avais promis, de ce signaleur, nouvelle fantastique dont on a déjà commencé à parler avec vous, Isabelle Gadouin, nouvelle interprétée ici par Michel Bernardi et Jean-Pierre Leroux.
Quand je fus arrivé assez bas pour l'apercevoir de nouveau, je le vis debout entre les deux rails de la voie que venait d'emprunter le train. Son attitude semblait indiquer qu'il attendait mon apparition. Il se tenait le menton de la main gauche et avait le coude gauche appuyé sur la main droite, le bras droit étant placé en travers de sa poitrine. Cette attitude donnait l'impression d'une attente tellement vigilante que je m'arrêtai un instant, stupéfait. Je repris ma descente et parvins au niveau de la ligne de chemin de fer. Je m'avançai alors vers lui et, en m'approchant, je constatai que c'était un homme au teint jaunâtre et qu'il avait une barbe noire et les sourcils épais. Son poste était situé dans l'un des endroits les plus solitaires et les plus lugubres que j'eusse jamais vu. Je m'approchai de lui, presque à le toucher, avant qu'il fît un mouvement. Même alors, il ne me quitta pas du regard, mais recula d'un pas et leva la main. Je lui dis quelques mots. Ce poste qu'il occupait n'était-il pas bien solitaire? Il jeta un regard fort étrange vers le feu rouge placé près de l'orifice du tunnel et en examina tout le voisinage, comme s'il avait l'impression qu'il y manquait quelque chose, puis tourna les yeux vers moi. Je lui demandai si la surveillance de ce signal rouge ne faisait pas partie de ses fonctions.
Il répondit d'une voix sourde. Vous savez bien que oui.
Une idée monstrueuse me vint à l'esprit. En observant son regard fixe et son visage fermé, je songeai que je n'avais pas en face de moi un homme, mais un spectre. Je me suis demandé depuis si je n'avais pas subi plus ou moins la contagion de ses pensées. À mon tour, je reculai. Ce faisant, je découvris dans ses yeux l'effroi indéfini que je lui inspirais.
Le signaleur. Isabelle Gadouin, c'est une nouvelle qui mêle la peur ancestrale du fantôme avec la peur nouvelle de la technologie.
Du chemin de fer, oui, absolument. Et dans l'extrait que vous venez de passer, ce qui est là aussi très fort, hein, c'est que on a le sentiment que ce signaleur est lui-même un homme hanté. Il a le sentiment qu'on lui annonce un accident imminent. Mais le narrateur lui-même se retrouve hanté par cet homme hanté. Donc il y a une sorte, il le dit bien, il y a une sorte de phénomène de contagion de la peur et de la hantise.
On ne sait plus où se trouve le réel et
absolument.
Où se trouve la fiction.
Et le fait est que le personnage qui lui-même croyait dans la réalité finit par perdre pied dans cette nouvelle. Et ce qui se passe à la fin, c'est qu'effectivement, le signaleur est bien victime d'un accident de train. Il est fauché par un des trains qu'il était censé diriger lui-même. Et le narrateur est forcé de reconnaître lui-même qu'il a vu absolument le même signe fait au moment de l'accident que celui que voilà, le signaleur craignait. Et donc il y a une sorte de, à la fois, non seulement de transmission de l'hantise, mais aussi la reconnaissance que l'homme de rationalité a vu, en fait, exactement le même fait que le signaleur. Il y a une sorte d'incapacité, là, à décider de la réalité de la chose ou du côté fictif de la chose.
Mais c'est sans doute aussi, là, le 19e qui frappe à la porte de la fiction, parce que on invente à cette époque-là le télégraphe, il y a l'électrification, ce sont des forces quand même mystérieuses, invisibles, et puis il y a... tout au long du 19e, cette espèce de tension sur la question de la rationalité, sur la question de l'origine des espèces. Donc on est vraiment à un endroit où la science vient cogner à la porte. Et ça, évidemment, c'est très effrayant. Comment est-ce que Dickens lui-même vivait, selon vous, ou selon ce que vous avez pu lire, cette émergence de la modernité effrayante et de la science?
En fait, ce qui est... Comment est-ce qu'il vivait l'émergence de la science? Je crois là aussi...
C'est un progressiste.
Oui, avec une certaine réticence quand même aussi. Ce qu'on sait, c'est qu'envers le chemin de fer, lui-même avait été victime d'un grave accident de chemin de fer. Hein. Il était dans le fameux train qui a déraillé à Staplehurst en 1865 et l'accident avait causé des morts. Hein, et on sait que c'est un accident qui, de fait, l'a hanté pendant très longtemps ensuite.
D'ailleurs, il a écrit le signaleur après cet accident. Donc
après,
on peut imaginer qu'il y a quand même des fantômes de cet accident dans
et
cette nouvelle.
Probablement une tentative de se libérer également du poids de cet accident. Mais ce qui est absolument fascinant quand on étudie le 19e siècle en Angleterre, c'est qu'on voit que en réalité, la science ne vient pas remplacer la superstition. Elle ne vient pas faire place nette. En réalité, elle-même engendre un certain nombre de peurs, vous l'avez dit, hein, face à des phénomènes que les gens ne comprennent pas nécessairement. Hein. Vous avez bien rappelé le télégraphe, donc on commence à envoyer des messages à des centaines, voire à des milliers de kilomètres sous forme de code morse que le commun des mortels ne maîtrise pas nécessairement. La photographie est également, alors très bizarrement, un de ces médiums où on voit proliférer en fait une sorte de d'imaginaire fantastique. En fait, on a toutes sortes de... Alors ça, c'est un chapitre absolument fantastique. Hein. On a toutes sortes de photographies à la fin du 19e siècle qui sont soit des manipulations pures et simples, soit des phénomènes de tirage qui ajoutent des auréoles, des ondes.
Donc on voit des fantômes qui apparaissent en effet sur la photographie.
Des phénomènes. Sans compter le fait que... de façon assez surprenante pour nous à l'heure actuelle, la photographie au 19e siècle, par exemple, peut être utilisée pour photographier les morts. Mmh. On veut garder une trace de ces chers disparus à nouveau. Et on voit des familles en particulier photographier les enfants et les bébés morts dans des mises en scène qui sont absolument macabres. Où, en fait, on voit l'enfant mort dans les bras de ses frères et sœurs, de ses parents, etc., avec une sorte d'inversion presque surnaturelle, dans laquelle, en réalité, l'enfant mort, qui, par définition, est totalement immobile, est beaucoup plus net, en fait, que les figures qui l'entourent, qui, elles, ont un aspect un peu spectral, puisqu'on est au tout début de la photographie, hein, dans les années 1850-1860. Et donc, les figures des vivants elles-memes sont un peu spectrales, alors que la figure de l'enfant mort, là, au milieu, se détache avec une espèce de vivacité et de prégnance. Et donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que la science elle-même n'est pas antithétique de ces superstitions. Elle peut elle-même créer ces sortes de peur ou de hantise.
Parce qu'il y a les sciences, mais il y a aussi les pseudo-sciences. Et c'est vrai que on est en plein dans la grande mode de l'occultisme. Victor Hugo, à cette époque, ou un peu après, fait tourner les tables. Et Dickens aussi, il est complètement dans cette mode de l'occultisme, Isabelle Gadouin.
Oui. En l'occurrence, je ne suis pas sûre que la différence entre la science pure et la pseudo-science à cette époque-là ait été aussi facile que ça à placer. Je l'ai dit, hein, il y a toute une tentative désespérée de continuer à garder un contact avec les morts, de garder une sorte de dialogue avec les morts, de communiquer avec l'au-delà. Tout cela fait partie, en fait, hein, de ce qui encourage voilà, ce qu'on a appelé le spiritisme en particulier.
Donc il le pratique, le spiritisme ?
Alors, il ne pratique pas le spiritisme. Il s'intéresse aux techniques d'hypnose, qui ne sont pas tout à fait la même chose. Hein. Ce qu'on voit dans les nouvelles, c'est qu'en fait, il est extrêmement sceptique et il est même très critique des pratiques qui consistaient à faire tourner des tables. Hein. Il y a une nouvelle très très drôle sur ce chapitre-là. La famille est occupée à essayer de faire tourner la table et on voit les deux amoureux qui, eux, font passer des petits mots par-dessous la table, donc l'obscurité les intéresse fort. Donc on voit là, évidemment, que Dickens est particulièrement critique. Mais en revanche, ce qui l'intéresse, ce sont toutes ces tentatives de saisir, alors longtemps avant Freud, hein, mais c'est le début quand même de ces interrogations-là, toutes les tentatives de saisir les profondeurs de la psyché, les motivations de l'inconscient, et
notamment à travers l'hypnose.
Et notamment à travers l'hypnose, notamment à travers
l'hypnose. Alors pour le coup, pratiquer,
qu'il
en
va,
tout cas,
pour le coup, apprendre.
Il va avoir comme professeur,
absolument,
des tenants de
qu'il
l'hypnose.
Va apprendre et lui-même pratiquer. Et il va pratiquer en particulier sur une amie à lui qui souffre de troubles nerveux, d'insomnie, de choses de ce genre. Et il va prendre la chose très au sérieux. Étant Dickens, évidemment, il ne peut rien faire sans se jeter à corps perdu dans la tentative. Et il va se livrer à une série de séances d'hypnose sur son ami.
Et vous dites que c'est au fond normal parce que Dickens a une énergie incroyable et que donc il est possible qu'il ait réussi à hypnotiser les gens grâce à son énergie. Mais de quelle énergie parlez-vous ? Simplement alors, de l'énergie telle que nous on l'entend quand on parle d'une personne énergique ?
Alors, je vous avouerai que je ne suis pas suffisamment spécialisé dans les techniques d'hypnose pour vous dire de quoi il ressortait, mais je crois que ce qui est clair, c'est qu'il y a chez Dickens une sorte d'incroyable capacité de conviction, déjà, et de force communicative, ça ne fait aucun doute. Hein. Alors après, le degré de possession qu'il avait des techniques de l'hypnose, je ne suis pas sûre de pouvoir le diagnostiquer rétrospectivement, mais ce qui est sûr, c'est
qu'il avait quelque chose d'un peu surnaturel dans une personnalité qui était fascinante.
Oui.
Peut-être ça aussi, l'énergie de Dickens, la fascination qu'il exerçait sur les gens.
Surnaturel et très humain en même temps, je dirais. Je ne vois pas nécessairement Dickens comme surnaturel, mais c'est sûr que c'est une créature qui est elle-même habitée et qui est aussi une créature de l'emprise. Je crois qu'il y a quand même aussi un caractère très autoritaire chez Dickens. Lorsque je disais qu'il se lance à corps perdu dans toutes ces aventures, il y a une volonté de réaliser les choses entièrement et même à plus de 100%. Enfin.
Sur France Culture, nous parlons de Dickens et des forces obscures et notamment des fantômes dont il parle dans Histoire de fantômes, ce recueil publié chez Folio Classique et dans lequel on peut lire une nouvelle qui s'appelle Confession trouvée ou alors Confession trouvée dans une prison. Ça dépend un petit peu des versions. Et là, vous allez peut-être nous résumer rapidement l'histoire et on va voir que c'est une nouvelle peut-être un petit peu particulière, peut-être encore un peu plus morbide que les autres.
Oui, cette nouvelle a un statut particulier. Alors, pour un certain nombre de raisons, c'est un des rares textes qui est écrit directement à la première personne. C'est une confession. Et on va découvrir assez rapidement que c'est la confession du meurtrier lui-même. Alors c'est un meurtrier particulièrement sanglant puisqu'il a assassiné un jeune garçon qui était placé sous sa... C'est son neveu, un jeune orphelin qui était placé sous sa protection.
Et quand on sait l'importance des enfants chez Dickens,
oui.
On ne peut que...
L'acte est très fort.
Voilà, voir que c'est l'acte sûr. En effet...
C'est un acte absolument gratuit. Et d'autant plus
c'est
gratuit.
Un monstre à l'état pur, lui.
D'autant plus gratuit, absolument. D'autant plus gratuit que il fait disparaître le corps. Et faisant disparaître le corps, il ne peut même pas, évidemment, clamer quelque droit que ce soit à la succession. Donc,
oui, parce qu'en fait, le mobile de l'assassinat de l'enfant, c'est de récupérer un héritage.
Oui, ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il y a une sorte de règlement de compte par l'enfant interposé contre la femme du frère qui a partagé, enfin qui a séparé les deux frères. Et donc, bon, la composante affective est aussi assez forte. Mais ce qui importe, donc, c'est que pour la première fois, on est placé dans l'esprit du meurtrier. Et le schéma est le schéma assez classique, le meurtre était presque parfait. Mmh. Il fait disparaître le corps du petit orphelin en l'ensevelissant et en étant persuadé qu'il est débarrassé à tout jamais du problème.
Il n'a aucun remords.
Il n'a aucun remords. C'est un texte qui est très factuel, très dépourvu de toute forme d'état d'esprit.
Très froid et en même temps c'est une confession.
Et en même temps c'est une confession.
Ça signifie qu'il y a quand même là peut-être une espèce de remords.
C'est la dernière jour, enfin c'est la dernière nuit de son existence. Il sera pendu le lendemain. On sait que le sort qui l'attend. Est-ce que la confession n'est pas amenée par la pendaison qu'il voit en perspective je ne crois pas que ce soit un texte du remords. En tout cas, c'est un texte de la confession qui n'est pas un texte du regret. S'il regrette une chose, c'est seulement le fait d'avoir été découvert. Ce n'est pas l'acte lui-même.
Mm-hmm. Et ça, c'est fréquent chez Dickens ou alors c'est un petit peu à part quand même dans son œuvre?
Ah, je dirais que c'est peut-être un peu à part cette idée d'un acte qui est totalement dépourvu de toute intervention du moindre sens moral. C'est même assez à part. Mm-hmm. A priori, le texte de Dickens, c'est quand même un texte qui est parcouru par des forces qui sont très morales, qui sont généralement les forces de la générosité, de l'humanité. Mais donc, ce qui importe, c'est que ce meurtrier, pensant avoir réalisé le crime parfait, s'installe pour discuter au-dessus de l'endroit où il a enterré l'enfant avec deux amis à lui qui sont de passage et ce sont en fait deux gros chiens, deux gros molosses qui viennent retourner le sol et donc exhumer le corps. Mais ce qui est important dans cette histoire, c'est la postérité de ce texte parce qu'il se trouve que la personne qui rapporte sur ce texte aux États-Unis, c'est Edgar Allan Poe. Et on dit que ce texte a très probablement influencé The Telltale Heart, où Poe reprend le même schéma, qui est le schéma du meurtrier perpétrant un crime qui le laisse, dans un premier temps, totalement froid, hein, étant persuadé qu'il triomphe par son aspect extrêmement contrôlé, rationnel, etc., et finalement débordé par ce qui s'avère, en l'occurrence, chez Poe, être sa mauvaise conscience. Alors, la différence, c'est que chez Poe, c'est le meurtrier lui-même qui finit par se trahir, parce que, simplement, les forces de l'inconscient sont plus fortes que celles du conscient. Chez Dickens, on a un stade antérieur où, en fait, la découverte vient de l'extérieur. Mais il y a quand même ici les prémices de ce qu'on va retrouver ensuite chez Poe.
Mais est-ce qu'on est vraiment dans une histoire de fantôme? Parce que c'est quasiment un récit policier. Je veux pas dire classique parce que on est justement là en train de construire un petit peu le roman policier cette époque-là.
Oui,
mais il n'y a pas vraiment de fantôme finalement.
Non, le fantôme ici, non, c'est vrai. Non, le fantôme, le fantôme réapparaîtra chez d'autres meurtriers qu'on trouve à nouveau. mais ce qu'on pourrait appeler le fantôme de la mauvaise conscience n'est pas encore présent ici, non.
Vous avez évoqué tout à l'heure, Isabelle Gadouin, la question de la forme. On peut peut-être y revenir en quelques mots pour terminer cette émission. Le récit gigogne, ça aussi, c'est quelque chose que Dickens va beaucoup utiliser. Est-ce que on est encore une fois là en train d'inventer un récit de fantôme et de le structurer?
Alors, j'aimerais bien pouvoir dire que Dickens est un grand inventeur. Je pense qu'un certain nombre de choses se font chez lui de manière assez spontanée. Mm-hmm. Je crois que ce qu'on voit surtout dans ces nouvelles, c'est l'inventivité. En fait, c'est plus sous cet aspect-là, je dirais, qu'il découvre de nouvelles formes.
Donc il n'est pas moderne en ce sens-là.
Non, j'irai pas jusqu'à dire que Dickens est un grand styliste ou que Dickens sait très exactement ce qu'il fait lorsqu'il manipule les formes narratives. Je pense qu'il y a un certain savoir de l'écriture qui fait qu'il sait jouer en particulier avec son lecteur et tromper le lecteur. Et donc dans ces narrations enchaînées, dans ces rebondissements, en fait, ce qu'on voit, c'est la capacité de celui qui écrit pour un lectorat en particulier et qui s'amuse à le prendre à contre-pied, en fait.
Merci beaucoup Isabelle Gadouin d'être venue nous parler des histoires de fantômes de Dickens que vous avez donc présentées dans son édition Folio de 2016. Vous êtes par ailleurs spécialiste de William Morris et de la littérature britannique du 19e siècle. Demain, pour le dernier épisode de notre série consacrée à Charles Dickens, nous parlerons des contes de Noël de David Copperfield et du livre Un conte des deux villes. Ce sera avec Dominique Barberis et Laurent Burie. Mais tout de suite sur France Culture, c'est comme chaque jour le retour de la poésie avec Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. En attendant, Nado est un site internet de littérature, tout comme Poésie Bao est un site de poésie, ou Esprit Nomade, ou Remue.net, ou Le Matricule des Anges, ou un site des éditeurs comme Le Miel des Anges, animé par Michel Volkovitch, traducteur et poète. Cette semaine, nous suivons Gérard Noiret dans les pas d'Anis Kolz pour un exercice d'admiration particulièrement réussi. En attendant, Nado. Plus écrite qu'écrivant, Anis Kolz est sommée par ses brouillons de faire advenir l'inconcevable. Son poème est bien, comme l'a défini Tsara, un objet dérobé au futur, dont on ignore le fonctionnement. Si aucune difficulté n'apparaît dans l'art d'Anis Kolz, si tout semble évident, si rien ne sent la sueur, c'est qu'elle a su poursuivre son travail d'élaboration jusqu'à ce que les traces en disparaissent. Je m'escorte. Je ne connais pas le squelette qui vit debout en moi. Obscurs sont les lieux de mon corps. La gravitation me commande. Je m'escorte dans l'énigme totale de moi-même. Comment me traduire par le verbe ? Le cri de l'épervier. Lorsque la mort me traverse, j'arrache son cri à l'épervier et l'intègre à mon vocabulaire. À mes yeux, le poète est plus celui qui sait se relire que celui qui sait écrire. Celui qui, au fait des apports de son époque, sait mobiliser ce qui est nécessaire pour libérer l'énergie de sa parole. Chaque mot a la couleur du silence. Tout ce qui a été dit n'est plus à dire. Chaque répétition est un signe de la mort. Chaque jour, je mange, mon père et ma mère, avec du pain chaud. Je crache des touffes de leurs cheveux. Mauvaise herbe sur le terrain de ma mère, elle m'enlève ma force de vivre. Ne voulant pas naître, j'ignore si j'existe ou si je suis morte de faim. Devenu un arbre, je me réveille au milieu de mes racines. Le bruit de la pluie est une machine d'imprimerie qui me rappelle que jadis j'écrivais. La vieille d'en face ne semblait pas savoir que le temps était aboli, que le monde avait changé. Éblouie de soleil, elle se tenait devant la porte et nouait son tablier. Je rentre de plus en plus profondément dans le paysage des autres. Je possède en moi toutes les directions. Je marche sur la terre rêche. Au loin, j'entends des paroles prononcées des siècles plus tôt, leurs échos ayant traîné dans l'univers avant de m'atteindre. Et enfin, sans certitude. Le poème est sans certitude dans sa traversée du monde et du langage. Élevé au rang de littérature, il porte en lui sa contradiction et sa chute.
Merci Jacques Bonafé.